Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, troisième partie, livre 42e. 1. Politique générale du moment. Philippe. 2. Monsieur Thiers. 3. Monsieur de Lafayette. 4. Armand Carrel. 5. De quelques femmes, la Louisianaise. 6. Madame Tastu. 7. Madame Sand. 8. Monsieur de Talleyrand. 9. Mort de Charles X. Chapitre 1. Paris, rue d'Enfer, 1837. Politique générale du moment. Philippe. Si passant de la politique de la légitimité à la politique générale, je relis ce que j'ai publié sur cette politique dans les années 1831, 1832 et 1833, mes prévisions ont été assez justes. Louis-Philippe est un homme d'esprit, dont la langue est mise en mouvement par un torrent de lieux communs. Il plaît à l'Europe, qui nous reproche de n'en pas connaître la valeur. L'Angleterre aime à voir que nous ayons, comme elle, détrôné un roi. Les autres souverains détestent la légitimité qu'ils n'ont pas trouvée obéissante. Philippe a dominé les hommes qui se sont approchés de lui. Il s'est joué de ses ministres, les a pris, renvoyés, repris, renvoyés de nouveau après les avoir compromis, si rien aujourd'hui compromet. La supériorité de Philippe est réelle, mais elle n'est que relative. Placez-le à une époque où la société aurait encore quelque vie, et ce qu'il y a de médiocre en lui vous apparaîtra. Deux passions gâtent ses qualités. Son amour exclusif de ses enfants, son avidité insatiable d'accroître sa fortune. Sur ces deux points, il aura sans cesse des éblouissements. Philippe ne sent pas l'honneur de la France comme le sentaient les aînés des Bourbons. Il n'a pas besoin d'honneur. Il ne craint pas les soulèvements populaires comme les craignaient les plus proches de Louis XVI. Il est à l'abri sous le crime de son père. La haine du bien ne pèse pas sur lui. C'est un complice, non une victime. Ayant compris la lassitude des temps et la vileté des âmes, Philippe s'est mis à l'aise. Des lois d'intimidation sont venues supprimer les libertés, ainsi que je l'avais annoncé dès l'époque de mon discours d'adieu à la Chambre des Pairs, et rien n'a remué. On a usé de l'arbitraire, on a égorgé dans la rue Transnonain, mitraillé à Lyon, intenté de nombreux procès de presse, on a arrêté des citoyens. On les a retenus des mois et des années en prison par mesure préventive, et l'on a applaudi. Le pays usé, qui n'entend plus rien, a tout souffert. Il est à peine un homme qu'on ne puisse opposer à lui-même. D'années en années, de mois en mois, nous avons écrit, dit et fait tout le contraire de ce que nous avons écrit, dit et fait. À force d'avoir à rougir, nous ne rougissons plus. Nos contradictions échappent à notre mémoire tant elles sont multipliées. Pour en finir, nous prenons le parti d'affirmer que nous n'avons jamais varié ou que nous n'avons varié que par la transformation progressive de nos idées et par notre compréhension éclairée des temps. Les événements si rapides nous ont si promptement vieilli que quand on nous rappelle nos gestes d'une époque passée, il nous semble que l'on nous parle d'un autre homme que de nous. Et puis avoir varié, c'est avoir fait, comme tout le monde. Philippe n'a pas cru, comme la branche restaurée, qu'il était obligé pour régner de dominer dans tous les villages. Il a jugé qu'il lui suffisait d'être maître de Paris. Or, s'il pouvait jamais rendre la capitale ville de guerre avec un roulement annuel de 60 000 prétoriens, il se croirait en sûreté. L'Europe le laisserait faire parce qu'il persuaderait au souverain qu'il agit dans la vue d'étouffer la révolution dans son vieux berceau, déposant pour gage entre les mains des étrangers les libertés, l'indépendance et l'honneur de la France. Philippe est un sergent de ville. L'Europe peut lui cracher au visage. Il s'essuie, remercie et montre sa patente de roi. Au reste, c'est le seul prince que les Français soient à présent capables de supporter. La dégradation du chef élu fait sa force. Nous trouvons momentanément dans sa personne ce qui suffit à nos habitudes de couronne et à notre penchant démocratique. Nous obéissons à un pouvoir que nous croyons avoir le droit d'insulter. C'est tout ce qu'il nous faut de liberté. Nation à genoux, nous souffletons notre maître, rétablissant le privilège à ses pieds, l'égalité sur sa joue. Narquois et rusé, Louis XI de l'âge philosophique, le monarque de notre choix, conduit dextrement sa barque sur une boue liquide. La branche aînée des Bourbons est séchée, sauf un bouton. La branche cadette est pourrie. Le chef inauguré à la maison de ville n'a jamais songé qu'à lui. Il sacrifie les Français à ce qu'il croit être sa sûreté. Quand on raisonne sur ce qui conviendrait à la grandeur de la patrie, on oublie la nature du souverain. Il est persuadé qu'il périrait par les moyens qui sauveraient la France. Selon lui, ce qui ferait vivre la royauté tuerait le roi. Du reste, nul n'a le droit de le mépriser, car tout le monde est au niveau du même mépris. Mais quelles que soient les prospérités qu'il rêve en dernier résultat, ou lui ou ses enfants ne prospéreront pas, parce qu'il délaisse les peuples dont il tient tout. D'un autre côté, les rois légitimes, délaissant les rois légitimes, tomberont. On ne renie pas impunément son principe. Si des révolutions ont été un instant détournées de leur cours, elles n'en viendront pas moins grossir le torrent qui cave l'ancien édifice. Personne n'a joué son rôle, personne ne sera sauvé. Puisque aucun pouvoir parmi nous n'est inviolable, puisque le sceptre héréditaire est tombé 4 fois depuis 38 années, puisque le bandeau royal attaché par la victoire s'est dénoué 2 fois de la tête de Napoléon, puisque la souveraineté de Juillet a été incessamment assaillie, il faut en conclure que ce n'est pas la République qui est impossible, mais la monarchie. La France est sous la domination d'une idée hostile au trône, un diadème dont on reconnaît d'abord l'autorité, puis que l'on foule aux pieds, que l'on reprend ensuite pour le fouler aux pieds de nouveau, n'est qu'une inutile tentation et un symbole de désordre. On impose un maître à des hommes qui semblent l'appeler par leurs souvenirs et qui ne le supportent plus par leurs mœurs. On l'impose à des générations qui, ayant perdu la mesure et la décence sociale, ne savent qu'insulter la personne royale ou remplacer le respect par la servilité. Philippe a dans sa personne de quoi ralentir la destinée. Il n'a pas de quoi l'arrêter. Le Parti démocratique est seul en progrès parce qu'il marche vers le monde futur. À moins toutefois que ce parti ne soit trop décomposé pour y parvenir. Ceux qui ne veulent pas admettre les causes générales de destruction pour les principes monarchiques attendent en vain l'affranchissement du joug actuel d'un mouvement des chambres. Elles ne consentiront point à la réforme, parce que la réforme serait leur mort. De son côté, l'opposition devenue industrielle ne portera jamais au roi de sa fabrique la botte à fond, comme elle l'a portée à Charles X. Elle remue afin d'avoir des places, elle se plaint, elle est hargneuse, mais lorsqu'elle se trouve face à face de Philippe, elle recule. Car si elle veut obtenir le maniement des affaires, elle ne veut pas renverser ce qu'elle a créé et ce par quoi elle vit. deux frayeurs l'arrêtent. La frayeur du retour de la légitimité, la frayeur du règne populaire. Elle se colle à Philippe qu'elle n'aime pas, mais qu'elle considère comme un préservatif. Bourré d'emplois et d'argent, abdiquant sa volonté, l'opposition obéit à ce qu'elle sait funeste et s'endort dans la boue. C'est le duvet inventé par l'industrie du siècle. Il n'est pas aussi agréable que l'autre, mais il coûte moins cher. Nonobstant toutes ces choses, une souveraineté de quelques mois, si l'on veut même de quelques années, ne changera pas l'irrévocable avenir. Il n'est presque personne qui n'avoue maintenant la légitimité préférable à l'usurpation, pour la sûreté, la liberté, la propriété, comme pour les relations avec l'étranger, car le principe de notre souveraineté actuelle est hostile au principe des souverainetés européennes. Puisqu'il lui plaisait de recevoir l'investiture du trône, du bon plaisir et de la science certaine de la démocratie, Philippe a manqué son point de départ. Il aurait dû monter à cheval et galoper jusqu'au Rhin, ou plutôt il aurait dû résister au mouvement qui l'emportait sans condition vers une couronne. Des institutions plus durables et plus convenables fussent sorties de cette résistance. On a dit, Monsieur le duc d'Orléans n'aurait pu rejeter la couronne sans nous plonger dans des troubles épouvantables. Raisonnement des poltrons, des dupes et des fripons. Sans doute des conflits seraient survenus, mais ils eussent été suivis du retour prompt à l'ordre. Qu'a donc fait Philippe pour le pays ? Y aurait-il eu plus de sang versé par son refus du sceptre qu'il n'en a coulé pour l'acceptation de ce même sceptre à Paris, à Lyon, à Anvers, dans la Vendée, sans compter ces flots de sang répandus à propos de notre monarchie élective en Pologne, en Italie, en Portugal, en Espagne. En compensation de ces malheurs, Philippe nous a-t-il donné la liberté ? Nous a-t-il apporté la gloire ? Il a passé son temps à mendier sa légitimation parmi les potentats, à dégrader la patrie en la faisant la suivante de l'Angleterre, en la livrant en otage. Il a cherché à faire venir le siècle à lui, à le rendre vieux avec sa race, ne voulant pas se rajeunir avec le siècle. Que ne mariait-il son fils aîné à quelque belle plébéienne de sa patrie ? C'eût été épouser la France. Cet hymen du peuple et de la royauté aurait fait repentir les rois. Car ces rois, qui ont déjà abusé de la soumission de Philippe, ne se contenteront pas de ce qu'ils ont obtenu. La puissance populaire qui transparaît à travers notre monarchie municipale les épouvante. Le potentat des barricades, pour être complètement agréable aux potentats absolus, devrait surtout détruire la liberté de la presse et abolir nos institutions constitutionnelles. Au fond de l'âme, il les déteste autant qu'eux, mais il a des mesures à garder. Toutes ces lenteurs déplaisent aux autres souverains. On ne peut leur faire prendre patience qu'en leur sacrifiant tout à l'extérieur, pour nous accoutumer à nous faire au-dedans les hommes liges de Philippe. Nous commençons par devenir les vassaux de l'Europe. J'ai dit 100 fois, et je le répéterai encore, la vieille société se meurt. Pour prendre le moindre intérêt à ce qui existe, je ne suis ni assez bonhomme, ni assez charlatan, ni assez déçu par mes espérances. La France, la plus mûre des nations actuelles, s'en ira vraisemblablement la première. Il est probable que les aînés des Bourbons, auxquels je mourrais attaché, ne trouverait même pas aujourd'hui un abri durable dans la vieille monarchie. Jamais les successeurs d'un monarque immolé n'ont porté longtemps après lui sa robe déchirée. Il y a défiance de part et d'autre. Le prince n'ose plus se reposer sur la nation. La nation ne croit plus que la famille rétablie lui puisse pardonner. Un échafaud élevé entre un peuple et un roi les empêche de se voir. Il y a des tombes qui ne se referment jamais. La tête de Capet était si haute que les petits bourreaux furent obligés de l'abattre pour prendre sa couronne, comme les Caraïbes coupaient le palmier afin d'en cueillir le fruit. La tige des Bourbons s'étant propagée dans les divers troncs autour d'elle, elle poussait des rameaux qui, se courbant, prenaient racine en terre et se relevaient province superbe. Cette famille, après avoir été l'orgueil des autres races royales, semble en être devenue la fatalité. Mais serait-il plus raisonnable de croire que les descendants de Philippe auraient plus de chances de régner que le jeune héritier de Saint-Louis ? On a beau combiner diversement les idées politiques, les vérités morales restent immuables. Il est des réactions inévitables, enseignantes, magistrales, vengeresses. Le monarque qui nous initia à la liberté, Louis XVI, a été forcé d'expier dans sa personne le despotisme de Louis XIV et la corruption de Louis XV. Et l'on pourrait admettre que Louis-Philippe, lui ou sa lignée, ne payerait pas la dette de la dépravation de la Régence ? Cette dette n'a-t-elle pas été contractée de nouveau par égalité à l'échafaud de Louis XVI ? Et Philippe, son fils, n'a-t-il pas augmenté la créance paternelle lorsque, tuteur infidèle, il a détrôné son pupille ? Égalité en perdant la vie n'a rien racheté. Les pleurs du dernier soupir ne rachètent personne. Il ne mouille que la poitrine et ne tombe pas sur la conscience. Si la race d'Orléans pouvait régner au droit des vices et des crimes de ses aïeux, où serait la Providence ? Jamais plus effroyable tentation n'aurait ébranlé l'homme de bien. Ce qui fait notre illusion, c'est que nous mesurons les desseins éternels sur l'échelle de notre courte vie. Nous passons trop promptement pour que la punition de Dieu puisse toujours se placer dans le court moment de notre existence. La punition descend à l'heure venue. Elle ne trouve plus le premier coupable, mais elle trouve sa race, qui laisse l'espace pour agir. En s'élevant dans l'ordre universel, le règne de Louis-Philippe, quelle que soit sa durée, ne sera qu'une anomalie, qu'une infraction momentanée aux lois permanentes de la justice. Elles sont violées, ces lois, dans un sens borné et relatif. Elles sont suivies dans un sens illimité et général. D'une énormité en apparence consentie du ciel, il faut tirer une conséquence plus haute. Il faut en déduire la preuve chrétienne de l'abolition même de la royauté. C'est cette abolition, non un châtiment individuel, qui deviendrait l'expiation de la mort de Louis XVI. Nul ne serait admis, après ce juste, à ceindre le diadème, témoin Napoléon le Grand et Charles X le Pieux. Pour achever de rendre la couronne odieuse, il aurait été permis au fils du régicide de se coucher un moment en faux roi dans le lit sanglant du martyr. Au reste, tous ces raisonnements, si justes qu'ils soient, n'ébranleront jamais en moi ma fidélité à mon jeune roi. Il sera toujours la plus grande espérance de salut que peut nourrir la France. Ne dût-il lui rester que moi, je serai toujours fier d'avoir été le dernier sujet de celui qui sera peut-être le dernier roi. Chapitre 2. Monsieur Thiers. La Révolution de juillet a trouvé son roi. A-t-elle trouvé son représentant ? J'ai peint, à différentes époques, les hommes qui, depuis 1789 jusqu'à ce jour, ont paru sur la scène. Ces hommes tenaient plus ou moins à l'ancienne race humaine. On avait une échelle de proportions pour les mesurer. On est arrivé à des générations qui n'appartiennent plus au passé. Étudiées au microscope, elles ne semblent pas capables de vie, et pourtant elles se combinent avec des éléments dans lesquels elles se meuvent. Elles trouvent respirable un air qu'on ne saurait respirer. L'avenir inventera peut-être des formules pour calculer les lois de l'existence de ces êtres, mais le présent n'a aucun moyen de les apprécier. Sans donc pouvoir expliquer l'espèce changée, on remarque çà et là quelques individus que l'on peut saisir parce que des défauts particuliers ou des qualités distinctes les font sortir de la foule. M. Thiers, par exemple, est le seul homme que la Révolution de juillet ait produit. Il a fondé l'école admirative de la terreur. Appartenant à cette école, je serais bien embarrassé car, si d'un côté ces renieurs et reniés de Dieu étaient de si grands hommes, l'autorité de leur jugement devrait peser. Mais d'un autre côté, ces hommes, en se déchirant, déclarent que le parti qu'ils égorgent est un parti de coquins. Voyez ce que Madame Roland dit de Condorcet, ce que Barbaroux, principal acteur du 10 août, pense de Marat, ce que Camille Desmoulins écrit contre Saint-Just. Faut-il apprécier Danton d'après l'opinion de Robespierre ou Robespierre d'après l'opinion de Danton? Lorsque les conventionnels ont une si pauvre idée les uns des autres, comment, sans manquer au respect qu'on leur doit, oser avoir une opinion différente de la leur? J'ai bien peur, toutefois, que l'on ait pris pour des gens extraordinaires des brutes qui n'avaient d'autre valeur que celle d'une roue dans une machine. On confond la machine et les rouages. La machine était puissante, mais ce n'étaient pas les roues qui l'avaient faite. Qui donc l'avait inventée? Dieu. Il l'avait créée, aux fins de la nécessité, qui viennent également de lui pour le résultat donné à l'heure d'une société prévue. Dans son esprit matériel, le jacobinisme ne s'aperçoit pas que la terreur a failli, faute d'être capable de remplir les conditions de sa durée. Elle n'a pu arriver à son but parce qu'elle n'a pu faire tomber assez de têtes. Il lui en aurait fallu 400 ou 500 000 de plus. Or, le temps manque à l'exécution de ces longs massacres. Il ne reste que des crimes inachevés dont on ne saurait cueillir le fruit, le dernier soleil de l'orage n'ayant pas fini de le mûrir. Le secret des contradictions des hommes du jour est dans la privation du sens moral, dans l'absence d'un principe fixe et dans le culte de la force. Quiconque succombe est coupable et sans mérite, du moins sans ce mérite qui s'assimile aux événements. Derrière les phrases libérales des dévots de la terreur, il ne faut voir que ce qui s'y cache, le succès divinisé. N'adorez la Convention que comme on adore un tyran. La Convention renversée, passez avec votre bagage de liberté au Directoire, puis à Bonaparte, et cela sans vous douter de votre métamorphose, sans que vous pensiez avoir changé. Dramatiste juré, tout en regardant les Girondins comme de pauvres diables parce qu'ils sont vaincus, n'en tirez pas moins de leur mort un tableau fantastique. Ce sont de beaux jeunes hommes marchant couronnés de fleurs au sacrifice. Les Girondins, faction lâche, qui parlèrent pour Louis XVI et votèrent son exécution, ont fait, il est vrai, merveille à l'échafaud. Mais qui ne donnait pas alors tête baissée sur la mort? Les femmes se distinguèrent par leur héroïsme, les jeunes filles de Verdun montèrent à l'autel comme Iphigénie. Ces artisans, sur qui l'on se tait prudemment, ces plébéiens, dont la Convention fit une moisson si large, bravaient le fer du bourreau aussi résolument que nos grenadiers le fer de l'ennemi. Contre un prêtre et un noble, la Convention immola des milliers d'ouvriers dans les dernières classes du peuple. C'est ce dont on ne se veut jamais souvenir. Monsieur Thiers fait-il état de ses principes? Pas le moins du monde. Il a préconisé le massacre et il prêcherait l'humanité d'une manière tout aussi édifiante. Il se donnait pour fanatique des libertés et il a opprimé Lyon, fusillé dans la rue Transnonain et soutenu envers et contre tout les lois de septembre. S'il lit jamais ceci, il le prendra pour un éloge. Devenu président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, M. Thiers s'extasie aux intrigues diplomatiques de l'école Talleyrand. Il s'expose à se faire prendre pour un turlupin à la suite, faute d'aplomb, de gravité et de silence. On peut faire fi du sérieux et des grandeurs de l'âme, mais il ne faut pas le dire avant d'avoir amené le monde subjugué à s'asseoir aux orgies de Grandvaux. Du reste, M. Thiers mêle à des mœurs inférieures un instinct élevé, tandis que les survivants féodaux, devenus cancres, se sont fait régisseurs de leurs terres. Lui, M. Thiers, grand seigneur de Renaissance, voyage en Nouvelle-Atticus, achète sur les chemins des objets d'art et ressuscite la prodigalité de l'antique aristocratie. C'est une distinction. Mais s'il sème avec autant de facilité qu'il recueille, il devrait être plus en garde contre la richesse, la camaraderie et la mauvaise société de ses anciennes habitudes. La considération est un des ingrédients de la personne publique. Agité par sa nature de vif argent, M. Thiers a prétendu aller tuer à Madrid l'anarchie que j'y avais renversée en 1823. Projet d'autant plus hardi que M. Thiers luttait avec les opinions de Louis-Philippe. Il se peut supposer un Bonaparte. Il peut croire que son taille-plume n'est qu'un allongement de l'épée napoléonienne. Il peut se persuader être un grand général. Il peut rêver la conquête de l'Europe par la raison qu'il s'en est constitué le narrateur et qu'il fait très inconsidérément revenir les cendres de Napoléon. J'acquiesce à toutes ces prétentions. Je dirai seulement, quant à l'Espagne, qu'au moment où M. Thiers pensait à l'envahir, ses calculs le trompaient. Il aurait perdu son roi en 1836, et je sauvais le mien en 1823. L'essentiel est donc de faire à point ce qu'on veut faire. Il existe deux forces, la force des hommes et la force des choses. Quand l'une est en opposition à l'autre, rien ne s'accomplit. À l'heure actuelle, Mirabeau ne remuerait personne, bien que sa corruption ne lui nuirait point. Car présentement, nul n'est décrié pour ses vices. On n'est diffamé que par ses vertus. M. Thiers a l'un de ces trois partis à prendre. Se déclarer le représentant de l'avenir républicain, ou se percher sur la monarchie contrefaite de Juillet, comme un singe sur le dos d'un chameau, ou ranimer l'ordre impérial. Ce dernier parti serait du goût de M. Thiers. Mais l'Empire sans l'Empereur, l'Empire accouplé à la démocratie, est-ce possible? Il est plus naturel de croire que l'auteur de l'histoire de la Révolution se laissera absorber par une ambition vulgaire. Il voudra demeurer ou rentrer au pouvoir. Afin de garder ou de reprendre sa place, il chantera toutes les palinodies que le moment ou son intérêt sembleront lui demander. À se dépouiller devant le public, il y a audace. Mais M. Thiers est-il assez jeune pour que sa beauté lui serve de voile? Deutz et Judas mis à part, je reconnais dans M. Thiers un esprit souple, prompt, fin, malléable, peut-être héritier de l'avenir, comprenant tout, hormis la grandeur qui vient de l'ordre moral. Sans jalousie, sans petitesse, sans morgue et sans préjugés, il se détache sur le fond terne et obscur des médiocrités du temps. Son orgueil excessif n'est pas encore odieux parce qu'il ne consiste point à mépriser autrui. M. Thiers a des ressources, de la variété, d'heureux dons. Il s'embarrasse peu des différences d'opinion, ne garde point de rancune, ne craint pas de se compromettre, rend justice à un homme non pour sa probité ou pour ce qu'il pense, mais pour ce qu'il vaut, ce qui ne l'empêcherait pas de nous faire tous étrangler le cas échéant. M. Thiers n'est pas ce qu'il peut être. Les années le modifieront, à moins que l'enflure de l'amour-propre ne le gagne. Si sa cervelle tient bon et qu'il ne soit pas emporté par un coup de tête, les affaires révéleront en lui des infirmités ou des supériorités inaperçues. Il doit promptement croître ou décroître. Il y a des chances pour que M. Thiers devienne un grand ministre ou reste un brouillon. Il a déjà manqué de résolution quand il tenait entre ses mains le sort du monde. S'il eût donné l'ordre d'attaquer la flotte anglaise, supérieurs en force comme nous l'étions alors dans la Méditerranée, notre succès était assuré. les flottes turques et égyptiennes, réunies dans le port d'Alexandrie, seraient venues augmenter notre flotte. Un succès obtenu sur l'Angleterre eût électrisé la France. On aurait trouvé à l'instant 150 000 hommes pour entrer en Bavière et pour se jeter sur quelques points de l'Italie où rien n'était préparé en prévision d'une attaque. Le monde entier pouvait encore une fois changer de face. Notre agression eût-elle été juste? C'est une autre affaire. Mais nous aurions pu demander à l'Europe si elle avait agi justement envers nous dans des traités ou abusant de la victoire. La Russie et l'Allemagne s'étaient démesurément agrandies, tandis que la France avait été réduite à ses anciennes frontières rognées. Quoi qu'il en soit, M. Thiers n'a pas osé jouer sa dernière carte. En regardant sa vie, il ne s'est pas trouvé assez appuyé, et cependant, c'est parce qu'il ne mettait rien au jeu qu'il aurait pu tout jouer. Nous sommes tombés sous les pieds de l'Europe. Une pareille occasion de nous relever ne se présentera plus. Mais était-il bon de mettre de nouveau le feu au monde? Grande question. Toutefois, les fautes de M. le Président du Conseil, s'étant trouvées liées avec une sympathie nationale, se sont ennoblies. En dernier résultat, M. Thiers, pour sauver son système, a réduit la France à un espace de 15 lieues qu'il a fait hérisser de forteresses. Nous verrons bien si l'Europe a raison de rire de cet enfantillage du grand penseur. Et voilà comment, entraîné par ma plume, j'ai consacré plus de pages à un homme incertain d'avenir que je n'en ai donné à des personnages dont la mémoire est assurée. C'est un malheur du trop long vivre. Je suis arrivé à une époque de stérilité où la France ne voit plus courir que des générations maigres. Lupa Carca Nelia Sua Magrezza. Ces mémoires diminuent d'intérêt avec les jours survenus, diminuent de ce qu'ils pouvaient emprunter de la grandeur des événements. Ils se termineront, j'en ai peur, comme les filles d'Achélous. L'Empire romain, magnifiquement annoncé par Tite Live, se resserre et s'éteint obscur dans les récits de Cassiodore. Vous étiez plus heureux, Thucydide et Plutarque, Salluste et Tacite, quand vous racontiez les parties qui divisaient Athènes et Rome. Vous étiez certain du moins de les animer, non seulement par votre génie, mais encore par l'éclat de la langue grecque et la gravité de la langue latine. Que pourrions-nous raconter de notre société finissante, nous autres, Welches, dans notre jargon confiné à d'étroites et barbares limites? Si ces dernières pages reproduisaient nos rabâchages de tribunes, ces éternelles définitions de nos droits, nos pugilats de portefeuille, seraient-elles, dans 50 ans d'ici, autre chose que les inintelligibles colonnes d'une vieille gazette? Sur 1001 conjectures, une seule se trouverait-elle vraie? Qui prévoirait l'esprit français, les étranges bonds et écarts de sa mobilité? Qui pourrait comprendre comment ses exécrations et ses engouements, ses malédictions et ses bénédictions se transmuent sans raison apparente? Qui saurait deviner et expliquer comment il adore et déteste tour à tour, comment il est dérive d'un système politique, comment, la liberté à la bouche et le servage au cœur, il croit le matin à une vérité et est persuadé le soir d'une vérité contraire? Jetez-nous quelques grains de poussière. Abeilles de Virgile, nous cesserons notre mêlée pour nous envoler ailleurs. Chapitre 3. Monsieur de Lafayette. Si par hasard il se remue encore quelque chose de grand ici-bas, notre patrie demeurera couchée. D'une société qui se décompose, les flancs sont inféconds. Les crimes même qu'elle engendre sont des crimes mort-nés, atteints qu'ils sont de la stérilité de leurs principes. L'époque où nous entrons est le chemin de halage par lequel des générations fatalement condamnées tirent l'ancien monde vers un monde inconnu. En cette année 1834, M. de Lafayette vient de mourir. J'aurais jadis été injuste en parlant de lui. je l'aurais représenté comme une espèce de niais à double visage et à deux renommées. Héros de l'autre côté de l'Atlantique, Gilles de ce côté-ci. Il a fallu plus de 40 années pour que l'on reconnût dans M. de Lafayette des qualités qu'on s'était obstiné à lui refuser. À la tribune, il s'exprimait facilement et du ton d'un homme de bonne compagnie. Aucune souillure n'est attachée à sa vie. Obligeant et généreux, il ne négligea pas ses affaires néanmoins, également enrichi par la donation du Congrès en Amérique et par la loi de l'indemnité en France. Sous l'Empire, il fut noble et vécut à part. Sous la Restauration, il ne garda pas autant de dignité. Il s'abaissa jusqu'à se laisser nommer le vénérable des ventes du carbonarisme et le chef des petites conspirations. Heureux qu'il fût de se soustraire à Beffort à la justice comme un aventurier vulgaire. Dans les commencements de la Révolution, il ne se mêla point aux égorgeurs. Il les combattit à main armée. Il voulut sauver Louis XVI. Mais tout en abhorrant les massacres, tout obligé qu'il fût de les fuir, il trouva des louanges pour des scènes où l'on portait quelques têtes au bout des piques. M. de Lafayette s'est élevé parce qu'il a vécu. Il y a une renommée échappée spontanément des talents et dont la mort augmente l'éclat en arrêtant les talents dans la jeunesse. Il y a une autre renommée, produit de l'âge, fille tardive du temps. Non grande par elle-même, elle l'est par les révolutions au milieu desquelles le hasard l'a placée. Le porteur de cette renommée, à force d'être, se mêle à tout. Son nom devient l'enseigne ou le drapeau de tout. M. de Lafayette sera éternellement la garde nationale. Par un effet extraordinaire, le résultat de ses actions était souvent en contradiction avec ses pensées. Royaliste, il renversa en 1789 une royauté de 8 siècles. Républicain, il créa en 1830 la royauté des barricades. Il s'en est allé donnant à Philippe la couronne qu'il avait enlevée à Louis XVI. Pétri avec les événements, quand les alluvions de nos malheurs se seront consolidées, on retrouvera son image incrustée dans la pâte révolutionnaire. Son ovation aux États-Unis l'a singulièrement rehaussé. Un peuple, en se levant pour le saluer, l'a couvert de l'éclat de sa reconnaissance. Everett termine par cette apostrophe le discours qu'il prononça en 1824. Guillemets. Sois le bienvenu sur nos rives, ami de nos pères. Jouis d'un triomphe tel qu'il ne fut jamais le partage d'aucun monarque ou conquérant de la terre. Hélas, Lafayette, l'ami de votre jeunesse, celui qui fut plus que l'ami de son pays, gît tranquille dans le sein de la terre qu'il a rendu libre. Il repose dans la paix et dans la gloire sur les rives du Potomac. Vous reverrez les ombrages hospitaliers du Mont Vernon, mais celui que vous vénérâtes, vous ne le retrouverez plus sur le seuil de sa porte. À sa place et en son nom, les fils reconnaissants de l'Amérique vous saluent. Soyez 3 fois le bienvenu sur nos rives. Dans quelque direction de ce continent que vous dirigiez vos pas, tout ce qui pourra entendre le son de votre voix vous bénira. Fin des guillemets. Dans le Nouveau Monde, M. de Lafayette a contribué à la formation d'une société nouvelle. Dans le monde ancien, à la destruction d'une vieille société. La liberté l'invoque à Washington, l'anarchie à Paris. M. de Lafayette n'avait qu'une seule idée. Et heureusement pour lui, elle était celle du siècle. La fixité de cette idée a fait son empire. Elle lui servait d'œillère, elle l'empêchait de regarder à droite et à gauche. Il marchait d'un pas ferme sur une seule ligne. Il s'avançait sans tomber entre les précipices, non parce qu'il les voyait, mais parce qu'il ne les voyait pas. L'aveuglement lui tenait lieu de génie. Tout ce qui est fixe est fatal. Et ce qui est fatal est puissant. Je vois encore M. de Lafayette à la tête de la garde nationale, passé en 1790 sur les boulevards pour se rendre au faubourg Saint-Antoine. Le 22 mai 1834, je l'ai vu, couché dans son cercueil, suivre les mêmes boulevards. Parmi le cortège, on remarquait une troupe d'Américains, chacun une fleur jaune à la boutonnière. Monsieur de Lafayette avait fait venir des États-Unis une quantité de terre suffisante pour le couvrir dans sa tombe, mais son dessein n'a point été rempli. Et vous demanderez pour la sainte relique quelques urnes de terre au sol de l'Amérique. Et vous rapporterez ce sublime oreiller afin qu'après la mort, sa dépouille chérie puisse du moins avoir 6 pieds dans sa patrie, de terre libre ou sommeillée. Au moment fatal, oubliant à la fois ses rêves politiques et les romans de sa vie, il a voulu reposer à Picpus, auprès de sa femme vertueuse. La mort fait tout rentrer dans l'ordre. À Picpus sont enterrées des victimes de cette révolution commencée par M. de Lafayette. Là s'élève une chapelle où l'on dit des prières perpétuelles en mémoire de ces victimes. À Picpus, j'ai accompagné M. le duc Mathieu de Montmorency, collègue de M. de Lafayette à l'Assemblée constituante. Au fond de la fosse, la corde tourna la bière de ce chrétien sur le côté, comme s'il se fût soulevé sur le flanc pour prier encore. J'étais dans la foule, à l'entrée de la rue Grange-Batelière, quand le convoi de M. de Lafayette défila. Au haut de la montée du boulevard, le corbillard s'arrêta. Je le vis, tout doré d'un rayon fugitif du soleil, briller au-dessus des casques et des armes. Puis l'ombre revint et il disparut. La multitude s'écoula. Des vendeuses de plaisir crièrent leurs oublis, des vendeurs d'amusettes portèrent çà et là des moulins de papier qui tournaient au même vent dont le souffle avait agité les plumes du char funèbre. À la séance de la Chambre des députés du 20 mai 1834, le président parla. Le nom du général Lafayette, dit-il, demeurera célèbre dans notre histoire. En vous exprimant les sentiments de condoléance de la Chambre, j'y joins, monsieur et cher collègue, Georges Lafayette, l'assurance particulière de mon attachement. Auprès de ces paroles, le rédacteur de la séance met entre deux parenthèses « hilarité ». Voilà à quoi se réduit une des vies les plus sérieuses. Hilarité. Que reste-t-il de la mort des plus grands hommes ? Un manteau gris et une croix de paille, comme sur le corps du duc de Guise, assassiné à Blois. À la portée du crieur public qui vendait pour un sou au gris du château des Tuileries la nouvelle de la mort de Napoléon, j'ai entendu deux charlatans sonner la fanfare de leur orvietan, et dans le Moniteur du 21 janvier 1793, j'ai lu ces paroles au-dessous du récit de l'exécution de Louis XVI. Entre guillemets, 2 heures après l'exécution, rien n'annonçait dans Paris que celui qui naguère était le chef de la nation venait de subir le supplice des criminels. À la suite de ces mots venait cette annonce. Ambroise, opéra comique. Dernier acteur du drame joué depuis 50 années, M. de Lafayette était demeuré sur la scène. Le cœur final de la tragédie grecque prononce la morale de la pièce. Apprenez, ô aveugle mortel, à tourner les yeux sur le dernier jour de la vie. Et moi, spectateur assis dans une salle vide, loge désertée, lumières éteintes, je reste seul de mon temps devant le rideau baissé, avec le silence et la nuit.